à présent...
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, ce que les réseaux font à nos cerveaux avec Gérald Bronner et Lionel Nakache. Ce que les réseaux font à nos cerveaux, on a l'impression aujourd'hui d'un véritable court-circuit mondial, un contact direct entre les réseaux technologiques d'information et les cerveaux humains, nos cerveaux vivants. Un court-circuit qui pourrait peut-être faire tout imploser, faire sauter les médiations entre les humains, nous mener à des dangers considérables. Est-ce le cas? Quels sont les risques? Quels sont les remèdes? Nous en parlons ce soir avec Gérald Bronner, sociologue à l'Université de Paris, qui rencontre cette question, le lien avec les cerveaux, dans son dernier livre, Apocalypse cognitive, paru au PUF, et Lionel Nakache, qui fait le chemin inverse, neurologue et chercheur, qui rencontre les questions sociales et toutes les questions humaines dans ses livres parus chez Odile Jacob. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Gérald Bronner.
Bonsoir.
Bonsoir Lionel Nakache.
Bonsoir.
Merci beaucoup à vous deux d'être là pour ce dialogue qu'en tout cas moi j'attends avec impatience, ce dialogue entre le sociologue qui rencontre la question du cerveau dans son dernier livre, l'avait déjà rencontré avant, et le neurologue qui rencontre la question sociale dans beaucoup de livres et notamment dans les derniers chez Odile Jacob, celui qui vient de paraître, le tout dernier, rejoint un des chapitres de Gérald Bronner sur la question des fictions, c'est le livre de Lionel Nakache intitulé Le cinéma intérieur, mais je voudrais d'abord, vous demandez à l'un et à l'autre si vous êtes d'accord avec mon diagnostic, celui d'un sort de court-circuit qui résulterait d'une sorte de saut qualitatif, finalement, un progrès des réseaux technologiques qui fait courir un nouveau risque ou une nouvelle aventure, finalement, au cerveau humain, dans son fonctionnement même, dans son fonctionnement cognitif. Alors peut-être, Gérald Bronner, pour commencer, est-ce que ce n'est pas cette hypothèse qui est derrière votre livre « Apocalypse cognitive » qui vient de sortir, Gérald Bronner ?
En effet, Frédéric Worms, la question de notre situation individuelle par rapport à la submersion, en fait, tout simplement, d'informations, hein, c'est que notre cerveau est un outil qui nous sert à traiter les informations, entre autres, à nous raconter des histoires, ça Lionel Nakache le dira mieux que moi, à donner du sens en fait aux faits, et par ailleurs confronté à un fait historique absolument majeur, et à un niveau jamais atteint dans notre histoire, qui est la disponibilité de l'information. On a coutume de dire qu'au début des années 2000, c'est-à-dire au moment de l'apparition de la démocratisation d'Internet, bien se publiait déjà plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et pour accélérer les choses, ces deux dernières années, il se fait que c'est diffusé 90%, c'est créé 90% de l'information disponible. Donc on voit que cette situation est sans précédent.
Vous voulez dire qu'en 10 ans, on a produit 90% de tous les savoirs de l'humanité que le reste de l'humanité a mis tout le reste de son histoire à construire.
Non, j'ai pas dit les savoirs, j'ai dit que dans les deux dernières années, si on prend toutes les informations qui sont disponibles aujourd'hui, 90% d'entre elles ont été produites ces deux dernières années.
C'est ça.
Ce qui est ahurissant, hein, ce qui est ahurissant, parce que dans ces informations, il y a le prix de la pizza, puis il y a toutes sortes de posts, Facebook, etc. Il n'y a pas que du savoir et de la connaissance solide, n'est-ce pas? Mais c'est une situation qui ne peut pas, évidemment, ne pas avoir des impacts considérables à la fois sur la vie en société et sur notre façon de nous représenter le monde.
Bien sûr, donc il y a ce saut qualitatif qui a des effets considérables, un des effets que vous analysez dans votre livre, et puis c'est là que vous rencontrez la neurologie, Lionel Nakache nous dira tout de suite son sentiment, c'est que le cerveau humain était construit pour un certain travail, qu'il mettait un certain temps à faire, et ce que vous venez de dire, c'est en un raccourci saisissant, c'est que finalement, il n'a plus ce travail à faire, et votre livre, Gérald Bronner, parle beaucoup de, voilà, qu'allons-nous faire de ce cerveau qui n'a plus ce travail, mais Lionel Nakache, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic, cette sorte de saut qualitatif, ces réseaux qui prennent le relais des cerveaux, finalement?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec le point de départ, et d'ailleurs le développement de Gérald Bronner dans son livre qui est extrêmement intéressant à lire, et peut-être un des points du problème sur lequel moi je l'avais saisi, notamment dans L'Homme raisonnable, c'est d'essayer de partir en fait du fait que cette profusion d'informations, elle était originaire du fait que nos sociétés actuelles, nos sociétés, on pourrait dire, de l'information post-industrielle, elles ont atteint un niveau de complexité dans la circulation de l'information qui, lui, justement, est inédit. C'est-à-dire que la cause...
Est inédit.
Ouais, et la cause première, du coup, de cette surcharge d'information, qui, on va voir, et je crois d'ailleurs que nos diagnostics se rejoignent aussi sur le futur, sur les potentialités qui ne sont pas nécessairement sombres, mais qui peuvent être des deux facettes, mais
tant
que
le
point de départ pour moi, c'est qu'en fait, la structure de circulation de l'information dans les sociétés a atteint un niveau de complexité inédit, et ce qui me surprenait, c'est qu'on peut dresser une sorte d'analogie entre la complexité de ces sociétés, qui est nouvelle, et celle de notre cerveau, qui est ancienne. Et donc là, peut-être qu'une des explications de ce court-circuit, comme vous l'appelez, Frédéric Worms, provient du fait qu'il y a une sorte de collusion entre deux architectures complexes. L'architecture complexe d'un cerveau, mais l'architecture complexe inédite de ces sociétés. Et pour moi, c'est ça le point de... Peut-être pas de rupture, mais le point inédit. Alors, on a des modèles pour le penser, comme par exemple, vous savez, on a souvent en neurosciences, notamment de la lecture, pour nous, l'invention des systèmes d'écriture-lecture, il y a à peu près 6000 ans, c'est déjà la première externalisation.
Une révolution analogue qui a aussi libéré le cerveau humain d'une tâche extraordinaire.
Exactement, qui est la première externalisation de la mémoire.
Transférer sa tâche à un outil externe.
Exactement, de pouvoir noter des pensées de manière symbolique à l'extérieur du cerveau. Donc, on a des modèles de penser, mais il est vrai que les conséquences que nous vivons aujourd'hui sont, sur certaines facettes, totalement inédites. Ouais.
Alors, Lionel Nakache, vous venez de faire allusion à un livre qui est paru en 2015. Vous en avez publié deux ou trois autres depuis, qui ont l'air de traiter de sujets différents, d'ailleurs, mais qui rejoignent tous les questions dont on parle. Son titre était « L'homme raisonnable », avec « réseau-nable ». Et ça produisait, en effet, cette analogie entre des réseaux qui seraient devenus une sorte de cerveau mondial, analogue à notre cerveau individuel et susceptible des mêmes crises. Et là, ce que vous venez de dire, c'est que c'est une analogie entre des systèmes complexes. Mais au fond, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est cette analogie entre des systèmes complexes peut produire en effet des crises. Vous parlez de manière pathologique, avec une analogie médicale, Lionel Nakache. Et vous-même, Gérald Bronner, au fond, c'est un peu la même idée, mais avec l'idée en plus que cette analogie entre des systèmes complexes, finalement, elle nous ramène à des réflexes basiques, à des réflexes instinctifs. Il y a une sorte de contradiction. D'un côté, c'est de l'hyper-complexe qui produit quelque chose d'hyper simpliste, finalement, Gérald Bronner. C'est un peu le cœur de votre diagnostic.
Oui, tout à fait. En fait, d'où le titre du livre, qui s'appelle « L'apocalypse cognitive » et qui n'annonce pas la fin des temps, je ne cesse de le dire, mais qui se fonde sur l'étymologie du terme, c'est-à-dire finalement révélation.
Du terme « apocalypse », voilà.
Voilà, et donc c'est finalement les obsessions, un certain nombre d'obsessions, on pourrait dire mentales, de notre espèce, parce que nous avons des obsessions qui sont bien utiles hein, d'ailleurs, mais qui à partir du moment où elles envahissent l'espace public, et c'est ça la nouveauté, elles donc dévoilent ces obsessions, eh bien elles peuvent devenir très encombrantes, voire contre-productives, du point de vue de l'intérêt général, parce que ce qui est en train de se produire sur ce marché de l'information, sur ce marché des idées, c'est un alignement inédit dans l'histoire de l'humanité entre toutes les offres possibles et toutes les demandes imaginables. Et cet alignement, en fait, fait que l'offre d'information, par exemple, elle a tendance incrémentiellement à s'aligner sur les demandes, et donc elle dévoile la nature de la demande, parce que pour survivre dans cette cacophonie d'informations, nous sommes submergés, les offreurs d'informations sont obligés de tenter de capter une partie de notre disponibilité mentale.
C'est ça.
Les professionnels de l'information, évidemment, vivent de cette captation possible, mais pas seulement. Nous-mêmes, quand nous avons un compte Facebook ou un compte sur un réseau social ou peu importe, nous cherchons, et c'est très humain, très profondément humain, à attirer l'attention sur nous. Le regard porté sur nous, sur notre action et l'approbation des autres nous est absolument vital d'un point de vue intellectuel. Et puis je crois que, là je laisse l'autorité à Lionel Nakache de le préciser, mais je crois aussi qu'il y a des sanctions chimiques positives dans l'approbation des autres. Je crois que c'est assez bien mesuré, notamment par des travaux en neurosciences. Et donc en fait, la recherche de cette captation de l'attention fait que l'offre d'informations sur ce marché dérégulé tend de plus en plus à s'indexer sur la demande, ce qui opère un dévoilement de la nature de la demande dans ses caractères un peu caricaturaux et obsessionnels.
D'accord.
Et voilà comment on arrive à une situation qui, en effet, fait en sorte que l'espace public l'espace du débat public notamment devient de plus en plus caricatural en exhibant les parties peut-être les plus honorables, je dirais, du fonctionnement de notre espèce.
Oui. Alors vous venez de résumer Gérald Bronner, en effet le lien que vous faites entre ce que vous appelez d'un côté l'hypermodernité du marché cognitif ou bien l'hyper développement des techniques d'information d'un côté et de l'autre côté le fonctionnement ancestral de notre cerveau, votre thèse telle que vous venez de la résumer, et c'est vrai que c'est très impressionnant ce diagnostic, c'est que ce réseau technique, je voudrais quand même qu'on y reste un petit peu, c'est-à-dire cet ensemble de moyens techniques qui mettent des millions d'informations à disposition, nous oblige pour les sélectionner à faire appel à nos mécanismes instinctifs. Vous distinguez en effet, vous dites le cerveau humain pour se repérer là-dedans, ben revient à ses pulsions primaires, la peur, la colère, l'amour, la sexualité plutôt, parce que vous allez dire comme pour savoir que j'idéalise déjà beaucoup, plutôt la sexualité. Donc il y a des instincts primaires qui reviennent dans cet océan technique. Mais est-ce que vous pouvez nous redire un mot, Gérald Bronner, et après je demanderai à Lionel Nakache ce qu'il en pense sur le plan neurologique aussi, mais de cette médiation technique, pour vous, finalement, elle disparaît. Au fond, c'est d'abord l'effet d'information massif.
Oui, mais qui compte. La technicité de ce réseau n'y est pas pour rien.
Oui.
Puisqu'en fait, elle permet de réagir au dixième de seconde près, par exemple, par les enchères sur les publicités.
Ah oui.
Donc la question de la publicité, si vous voulez, c'est le sas de conversion entre notre attention et un capital économique. C'est donc absolument essentiel pour expliquer les flux qui se produisent sur ce marché de l'information. Donc l'ultra-technicité de ces réseaux, elle a permis ce transfert entre notre attention et un capital économique, eh bien elle l'a permis de l'ajuster.
Elle l'a permis en s'effaçant finalement. La technique est tellement rapide, presque invisible, que ceux qui s'en servent peuvent agir directement sur nos cerveaux.
Voilà, elle est presque invisible, mais elle est omniprésente, n'est-ce pas ? Parce que tout cela est enrobé dans une logique algorithmique qui fonctionne grosso modo sur la question de la popularité des contenus, mais aussi sur les traces numériques que nous laissons, n'est-ce pas ? Nous nourrissons ces algorithmes par les traces numériques que nous laissons, et ces algorithmes nous enferment donc dans une fréquentation du même, de l'identique ou de quelque chose, disons, qui provoque une forme de satisfaction intellectuelle, une forme de confort cognitif.
Qui nous enferme dans nos réflexes, la trace de nos réflexes, la trace de nos pulsions qu'on laisse.
Voilà, et voici comment nous nous retrouvons confrontés à la version caricaturale de nous-mêmes, et nous finissons par l'approuver, en quelque sorte.
Alors, on va parler des dangers et aussi des remèdes, mais, et puis aussi de cette question de cette disparition des intermédiaires. Mais Lionel Nakache, est-ce que vous êtes d'accord avec ce branchement, en quelque sorte, direct entre les techniques les plus modernes et nos bases cérébrales les plus archaïques?
Oui, alors évidemment, c'est un phénomène qui a tellement de facettes. On pourrait y passer franchement des soirées entières ou des semaines, mais peut-être.
On a déjà une heure. Hein,
on a déjà une heure. Mal, hein. Mais peut-être de jeter une idée différente qui peut permettre aussi d'éclairer le problème. Ouais. C'est que, en gros, si on revient à cette notion d'architecture de circulation d'informations complexes, sans être ni historien ni sociologue, on pourra revenir sur notre interdisciplinarité recherchée, parce que c'est une période amusante pour ça.
Les deux entrées d'un même tunnel, voilà.
Ouais, et puis on est un petit peu, je pense, d'ailleurs, j'ai vu qu'on est nés la même année, peut-être pas tous les trois, mais Gérald Bronner, on est né en 69 tous les deux. Je pense qu'on est une génération.
Vous ne faites pas dire que je suis plus âgé que vous.
Voilà, ça me fait un peu de peine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est une génération, je dirais pas héroïque, on va pas être auto-célébré, mais on s'est formé sans avoir une formation immédiatement interdisciplinaire. Alors que je pense que la plupart des prochains psychologues, neuroscientifiques, philosophes, sociologues, anthropologues du 21e siècle, ils vont nécessairement essayer d'avoir une solide interdisciplinarité. Mais nous, on essaie de la construire. Et donc, il y a quelque chose d'un peu, peut-être pas bancal, mais intéressant, émouvant dans cette recherche.
Un peu sauvage, d'un peu créatif.
Ou en tout cas, d'adulte.
D'un peu risqué
et d'un adulte, on pourrait dire, d'une sorte de trajectoire un peu personnelle, où vous allez vous-même vous former à quelque chose, sans avoir été dans une sorte d'autoroute de formation de ça. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette époque aussi. Alors, pour revenir à cette idée qui est simple, mais qui peut nous intéresser, un cerveau complexe dans l'information, il y a deux grandes directions de l'information. Il y a ce qu'on appelle le top-down. En gros, c'est une sorte de contrôle hiérarchique des régions les plus évoluées vers les régions les plus simples, en fait, de l'architecture de la perception.
Donc en ça, général. C'est notre esprit, entre guillemets, qui commande. Enfin, voilà, la partie rationnelle, dire, voilà, disons, parce qu'on parlera de la rationalité avec aussi Gérald Bronner aussi.
Oui, absolument, mais aussi avec un aspect hiérarchique, une notion d'autorité. Et si on essaie de trouver un premier parallèle, on peut dire que la naissance des architectures d'information complexes, elle commence par une architecture plutôt top-down. Ça veut dire quand vous inventez la presse, quand vous inventez ensuite avec la technologie la radio, les premières télévisions, mais aussi les transports physiques, les autoroutes des régimes fascistes, on n'oublie pas, hein, les autoroutes mussoliniens, mais qu'on a partout, les trains, le transport ferroviaire, tous ces systèmes-là, ils vont essentiellement correspondre sur le plan de l'information à une forme, on pourrait dire, je ne sais pas, mais de communication un peu autoritaire. On vous délivre une information à vous, l'individu.
La technique est du côté du contrôle à ce moment-là.
Voilà, et vous la recevez, et vous n'avez pas beaucoup de moyens de réagir, vraiment. Et aujourd'hui, ce qu'on vit peut-être aussi, une partie, et c'est ce que Gérald Bronner aussi explique très bien dans son livre, c'est qu'en fait, on est maintenant, d'après moi, dans une période qui est aussi intéressante, c'est qu'on a injecté du bottom-up. C'est-à-dire que maintenant, quand vous recevez une information, ou quand les auditeurs nous écoutent, ils peuvent en temps réel, de manière plus ou moins impulsive, réfléchie ou pas, c'est une autre question, mais réagir et renvoyer, et parfois de manière extrêmement efficace. Et donc, on a ici une deuxième directionnalité de l'information, qui n'est pas simplement du top-down et du bottom-up. Et évidemment, dans l'équilibre entre ces deux tendances, un cerveau qui fonctionnerait qu'en top-down, ça serait une catastrophe, mais à l'inverse, un cerveau qui fonctionnerait qu'en bottom-up également.
Ce que vous voulez dire, Lionel Lacache, c'est qu'au fond, quand on part du bottom, parce que ce bottom pourrait être tout à fait rationnel, mais bien ce sûr. Bottom, comme Gérald Bronner vient de l'indiquer, le risque, c'est qu'ils soient impulsifs, c'est qu'ils répondent à des pulsions, au fond, que cette image du sommet, elle vient de Platon, déjà les trois niveaux de l'esprit humain, mais de l'âme humaine, mais là, vous la reprenez, cette image, cette partie un peu, entre guillemets, rationnelle de nous-mêmes, n'est pas forcément celle qui réagit aux impulsions. Ce bottom, il peut être aussi, c'est le diagnostic un peu inquiet de Gérald Bronner, il peut être archaïque au sens...
Oui, bien sûr, mais on pourrait dire que dans le top-down aussi, vous pouvez avoir, on pourrait dire que des régimes autoritaires top-down, on en a connu au XXe siècle, donc je veux dire, je ne ferai pas l'apologie ni de l'un ni de l'autre.
D'accord.
Je pense que l'intérêt, c'est d'arriver à avoir un mode de fonctionnement, pour le coup, une sorte de loi du milieu, qui puisse aménager les deux. Et peut-être que ce qu'on vit aujourd'hui, une partie, moi je crois assez à ce que Régis Debray appelle les effets de jogging. Vous savez, ça veut dire que l'effet de jogging, je crois, pour Régis Debray, c'était quand on invente la circulation automobile, on se dit tout le monde va devenir obèse aux États-Unis, et puis on invente le jogging. Et les gens se mettent à courir, non pas pour aller travailler, mais pour maigrir. Voilà.
Et parfois avec les podcasts dans l'oreille.
Voilà, donc je veux dire par là, je suis ni un optimiste déraisonné, ni un pessimiste, mais je veux dire qu'on vit dans une période de balancier où on a beaucoup de bottom-up avec beaucoup de conséquences impulsives, où l'analogie de l'épilepsie que je développe là, mais je pense qu'on a beaucoup de mécanismes pour arriver à réagir à ça, et c'est peut-être un point sur lequel on se rejoint aussi avec Gérald Bronner, c'est-à-dire que pour moi la messe n'est pas dite, c'est-à-dire qu'on peut arriver à décider, parce qu'un cerveau complexe, en gros, il peut être soit très conscient, soit pas du tout conscient, et donc on a aussi peut-être ici un enjeu sociétal d'atteindre également un niveau
d'équilibre, finalement.
En tout cas un niveau de fonctionnement collectif qu'on n'a jamais atteint. On peut prendre plusieurs exemples, mais l'accès à l'information, par exemple, aujourd'hui, on prend dans un domaine universitaire, si on compare par exemple nos trajectoires quand vous accédez à l'information dans les années 80 ou maintenant, mais ça, c'est juste un plaisir absolu de pouvoir...
Il fallait aller à la bibliothèque ou en librairie...
Écrire parfois à des bibliothèques ou aller se déplacer physiquement, attendre des semaines parfois pour avoir un retour postal, papier, etc.
Gérald Bronner, est-ce que vous pensez, vous aussi, que la structure que vous décrivez, comme Lionel Lacache, vous la décrivez au fond de la même façon, mais... est-ce qu'elle est neutre, finalement, dans son usage? Est-ce qu'il peut y avoir des usages positifs et négatifs? On va y revenir. Ou bien est-ce que vous n'êtes pas un peu plus inquiet, malgré tout, sur ce bottom-up qui risque d'être un peu quand même contrôlé par du top-down?
Je ne pourrais pas être plus d'accord avec ce que Lionel Nakache vient de dire. En réalité, je crois effectivement, je l'écris d'ailleurs dans mon livre, que ces traces numériques que nous laissons et qui dessinent une figure un peu caricaturale de l'humanité, eh bien, nous ne sommes pas que cela, mais nous sommes cela aussi. Et qu'un des grands enjeux du moment civilisationnel que nous sommes en train de vivre, c'est d'accepter de nous regarder tels que nous sommes, en n'oubliant pas que nous ne sommes pas que cela. Et donc, c'est effectivement, je pense, une question de tempérance qui est fondamentale. Mais en effet, la configuration, je dirais, du monde numérique, pour l'instant, ne nous y invite pas. Mais la partie n'est pas jouée. Quant au phénomène bottom-up, tout simplement, c'est effectivement ça qu'on a observé. Et il y a plein d'aspects extrêmement positifs sur cette question. C'est la réticulation même d'Internet autorise cela. Je dirais que d'une façon générale, elle nous met en garde simplement sur le fait que nous pouvons produire collectivement des effets émergents contre-productifs sans nous en apercevoir. C'est ça le problème d'une structure bottom-up, si vous voulez, c'est que nous n'avons pas toujours conscience en tant qu'individu des formes collectives que nous sommes en train de produire, l'exemple le plus typique étant l'embouteillage, par exemple, qui est la conséquence de la volonté de chacun de rentrer chez lui à la bonne heure, et qui provoque évidemment un effet collectif qui inverse le sens des intentionnalités.
D'accord.
Donc c'est là, je crois, que cette question elle est éminemment politique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord produire des diagnostics non pas sévère, mais réaliste, comme nous essayons de le faire, je pense, Lionel Nakache et moi. Et à partir de là, en se fondant sur une anthropologie réaliste, non naïve, eh bien, pourquoi pas envisager une narration qui sera de toute façon politique. Parce que la question de la gestion des effets émergents
dans des systèmes bottom-up est une question éminemment politique. Il faut, c'est même peut-être l'essence du politique. C'est ce que disait Yon Elster d'ailleurs à ce propos. C'est sa façon de définir le politique. C'était la prise en charge des externalités négatives produites par les actions individuelles aveuglées, quoi, par leur finalité.
Donc au fond, il y a pas de fatalité ni pour l'un ni pour l'autre d'entre vous. Les réseaux font réagir nos cerveaux de manière différente de précédemment, en plus de manière globale, à la fois individuellement et collectivement, mais on peut encore reprendre le contrôle à condition d'avoir ce que vous appelez, Gérald Bronner, une anthropologie réaliste, on y reviendra dans un instant, à condition aussi de comprendre le fonctionnement de notre petite machine cérébrale que la musique qu'on va entendre illustre selon Lionel Nakache.
Moi, je voulais pas venir, je voulais pas venir. Et puis on m'a dit que c'était pour rire. Un film joué, une télé, du playback complet. Moi, je veux bien rire, faire les pieds au mur. Embrasser des filles dans les voitures. En recevoir, en donner, faire semblant d'être gay.
Je n'ai plus la vie là.
C'est du vrai sel dans l'eau des yeux, du vrai amour qui rend malheureux. Un cœur vrai, du sang vrai, de petits enfants que j'ai. Manivelle tourne, un drôle de cartoon. Manivelle tourne, mais c'est ma vraie vie qui tourne. Manivelle tourne, combien d'années encore. Manivelle tourne, déjà j'aime plus mon corps. Manivelle tourne, je suis maquillé pâle. Manivelle tourne, je savais que ça finirait mal.
France Culture,
à présent,
Frédéric Worms.
Hey, gros producteur fumé de cigares.
À présent, ce soir, ce que les réseaux font à nos cerveaux, avec Gérald Bronner et Lionel Nakache. Gérald Bronner qui vient de publier Apocalypse Cognitive aux Presses Universitaires de France, et Lionel Nakache, neurologue, dont le dernier livre qui vient de paraître aussi chez Odile Jacob s'intitule Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience. Et c'est la raison, Lionel Nakache, du choix de cette chanson d'Alain Souchon que nous entendons, La Manivelle. Exactement. Pour vous, notre cerveau est un projectionniste et la petite manivelle, c'est ça ?
Exactement, c'est ça. En plus, c'est une chanson que j'aime beaucoup et c'est un clin d'œil, effectivement, au fait de reprendre ce rapport au cinéma. Et tout l'objet de ce livre du cinéma intérieur, c'est de partir de ce qui se passe quand vous êtes dans une salle de cinéma et de partir de ce phénomène sidérant qui est qu'en fait, sur un écran, il y a une suite d'images, mais ce que vous percevez, c'est pas la suite d'images, mais c'est un film. Ouais. Autrement dit, votre esprit-cerveau a inventé ce qu'il y avait entre les images qu'on vous a montrées. Il a inventé la continuité du film. Mmh. Une sorte de machine qui mouline du discret, mathématique, en du continu. Mmh. Et le point intéressant, c'est qu'en fait, ce cinéma, il continue à opérer, même quand vous n'êtes plus au cinéma. C'est une des très grandes découvertes, on peut dire, de la deuxième partie du XXe siècle en neurosciences cognitives. C'est que dans la perception, on procède un peu comme dans un vrai cinéma, c'est-à-dire que même lorsque je suis en train de vous voir ou discuter avec vous, avec qui que ce soit dans la rue, eh bien, on a une sorte de capture discrète de certaines images, au sens un peu complexe des images, plus complexe que celle du cinéma, et notre esprit-cerveau, si on veut l'appeler comme ça, compose le film, et compose donc la signification de ce qu'il est en train de percevoir. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment, là aussi c'est une analogie, on parlait de celle du macrocosme et du microcosme tout à l'heure, mais là c'est une analogie avec le monde cinématographique, et qui peut nous porter en fait assez loin, nous conduire assez loin dans des pertinences sur qu'est-ce qui se passe en fait dans notre vie mentale.
Alors c'est une analogie très intéressante entre le cerveau et le cinéma, et ce qui est en nous et ce que nous fabriquons nous-mêmes dans les images. Lionel Nakache, encore un instant sur ce point, parce que ça va rejoindre le diagnostic et la discussion que nous avions avec Gérald Bronner aussi sur les enjeux politiques de tout cela. Il y a par exemple, je ne peux pas m'empêcher de le citer, chez Bergson, au début du XXe siècle, il y a cette analogie entre ce qu'il appelle le mécanisme cinématographique de notre perception, le découpage en images que notre cerveau fait du monde, pour des raisons pratiques, d'après lui, et c'est pour ça que nous perdons la vue du réel, nous le déformons. Mais ce que vous ajoutez, vous, Lionel Nakache, et qui me semble rejoindre ce que Gérald Bronner analyse aussi, il parle de la fiction, vous parlez de la fiction, Gérald Bronner, dans votre livre « À la fin de l'apocalypse cognitive ». Ce que vous ajoutez, Lionel Nakache, c'est justement l'idée que ce cinéma de notre cerveau, c'est pas une captation objective du monde. Nous y ajoutons de la fiction, exactement, nous créons. En fait, et c'est ça aussi la force et le risque qu'analyse Gérald Bronner dans son livre.
Oui, et c'est en ça aussi que peut-être que ces deux approches sont très complémentaires. C'est que ce qui m'intéressait beaucoup de montrer, c'est qu'en réalité, effectivement, ce que nous percevons des choses, et c'est pas uniquement dans la perception. Ce cinéma intérieur, je montre en fait, qu'il s'étend à l'imagination, à l'hallucination, au rêve.
Le rêve,
en fait,
la
au
mémoire.
Contenu de conscience, au flux de conscience en général, à la mémoire épisodique.
Toutes nos représentations, en fait.
Exactement. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que pour la perception, par exemple, parce que c'est le plus simple à décrire, notre perception est une sorte de co-création entre le monde dans lequel nous sommes et ce que nous en faisons. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'effectivement, la fiction et les fictions au plan sociologique, collectif, sociétal, elles sont très importantes. On en reparlera avec Gérald Bronner, et c'est un élément central aussi de son livre. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que je pense que pour vraiment comprendre les fondements de la fiction, il faut comprendre que les fictions qui hantent nos esprits, en tout cas avec lesquels nous jouons, ne se limitent pas aux fictions, on pourrait dire, complexes. Les fictions riches, élaborées, comme celles qui concernent, je sais pas moi...
Les grands romans.
Vos relations affectives, les grands romans, vos options politiques, vos croyances en général. Ce que j'essaye de montrer, c'est que si on fait une sorte de généalogie des fictions, une sorte de préquel, comme au cinéma, on revient aux origines de la fiction, eh bien, c'est de montrer que dès que vous ouvrez les yeux, en fait, vous êtes déjà dans de la fiction. Parce que par fiction, j'entends l'attribution d'un sens subjectif, la création d'une sorte de signification dès le départ.
Pour venir à la naissance du héros, comme Dark Vador dans La Guerre des Étoiles.
Exactement, et que je pense qu'en revenant à ces briques élémentaires de la fiction, on peut mieux comprendre comment on passe de ces fictions irrépressibles et dont on n'a pas nécessairement conscience à ces fictions plus complexes, plus élaborées. Elles ne sont pas sanctuarisées ou séparées l'une de l'autre. Elles sont en continuité.
Ça rejoint ce que vous disiez l'un et l'autre tout à l'heure sur le bottom-up, c'est-à-dire cette façon dont les choses émergent du bas vers le haut, des individus vers le tout et non pas l'inverse. Gérald Bronner, au fond, est-ce qu'il n'y a pas le meilleur et le pire? Est-ce que cette construction des fictions par le cerveau humain, pour vous, c'est justement capable, comme le disait Lionel Lacache, du meilleur et du pire, mais en tout cas un facteur de cette anthropologie que vous défendez, Gérald Bronner?
Oui, en tout cas, l'histoire l'a montré, évidemment, mais ce que je trouve fascinant dans l'approche de Lionel Nakache, dans laquelle je me reconnais beaucoup, c'est qu'effectivement, notre cerveau est une machine à fabriquer du sens, en réalité. D'ailleurs, il écrit, Lionel Nakache, dans son livre, que c'est pas tant la vérité qui est le primum mobile de la recherche du cerveau, mais bien la quête de sens, c'est-à-dire, finalement, lisser cognitivement les faits. Et c'est vrai que nous n'appréhendons...
D'une façon ou d'une autre, finalement, d'une façon ou d'une autre, faut y arriver. C'est un impératif vital.
Absolument, mais c'est de toute façon cela s'impose à nous. C'est une façon de survivre mentalement dans un monde de toute façon plein d'incertitudes et auquel on doit donner du sens. Donner du sens à notre environnement, c'est se donner un pouvoir d'action sur lui. Cette narration-là, elle est constitutive même de notre pensée. Et cela rejoint, j'en suis d'autant plus convaincu que cela rejoint une tradition de pensée ancienne en sociologie, celle un peu du néo-kantisme avec Max Weber, par exemple, qui pense qu'en effet, toute considération sur le réel, tout discours sur le réel, est un choix dans le réel de certains points qu'on va relier par un idéal type, en quelque sorte, de pensée. Il définissait même, je vous le rappelle, la sociologie, comme une science de l'interprétation des sens subjectivement visés.
Oui, c'est-à-dire que l'action humaine ne peut pas se comprendre par des intérêts extérieurs ou par des mécanismes simples, mais on doit passer par la pensée du sujet, de l'acteur, finalement.
Voilà, reconstruire l'univers mental de l'acteur, quels étaient les sens qu'il visait, et c'est très profondément inscrit dans la sociologie que j'essaye de pratiquer. Et ce qui est tout à fait fascinant ensuite, quand on prend les fictions comme objets collectifs, par exemple les séries télé, etc., c'est que l'on constate, et j'aimerais peut-être entendre Lionel Nakache, on constate que dans un certain nombre de moments historiques, la fiction a précédé la croyance. C'est le cas, par exemple, dans les grands mouvements spirites, vous savez, qui ont frappé le 19e siècle et le début du 20e siècle. On voit qu'en fait, il y a toute une littérature gothique qui a précédé ces mouvements spirites qui, dans cette littérature, on imaginait qu'on pouvait communiquer avec les fantômes, avec les morts, mais ça n'était qu'un pur roman de fiction. On a observé la même chose pour les soucoupes volantes, pour les récits de soucoupes volantes, avant que Kenneth Arnold envoie une pour la première fois en 1949, si je me rappelle bien, en nommant le terme soucoupe volante. On avait des récits de vaisseaux qui venaient nous visiter. Et un peu de la même façon, on observe que la plupart des séries aujourd'hui sont extrêmement conspirationnistes. Une des premières, la matrice de tout cela a sans doute été X-Files, vous vous souvenez, qui était sous-titré « La vérité est ailleurs », qui est déjà en elle-même un programme conspirationniste. Et on peut s'interroger sur cette question de la précession de la fiction sur l'apparition de croyances. C'est absolument... Donc je suppose que peut-être la fiction, ce n'est pas que les gens se mettent à croire que la fiction est vraie, mais c'est comme si la fiction faisait un travail cognitifs préparatoires.
Préparer les cerveaux, puisque les cerveaux travaillent par la fiction. Donc ça veut dire que certains cerveaux humains créent des fictions, je vous disais, Gérald Bronner, et d'autres cerveaux humains y croient, entre guillemets, c'est-à-dire les mettent en œuvre dans leur travail nécessaire de fictionnalisation de la vie. Donc il y a un vrai danger, finalement. On peut être... Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel Nakache ?
Oui, j'en pense deux choses. D'abord, c'est que là que je trouve qu'il y a un lien, c'est comme une passe au rugby ou au football. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de cette généalogie individuelle de ces micro-fictions et de la manière de laquelle on les construit, évidemment, immédiatement, on arrive sur la dimension sociale, sur la dimension interindividuelle, sur la dimension culturelle, celle sur laquelle insistait Gérald Bronner, en fait, de la contribution d'une fiction complexe qui va prendre de l'emprise dans une société. Elle n'est pas uniquement dans un seul esprit, on y reviendra peut-être. Donc ça, là-dessus, je trouve qu'il y a une continuité aussi des approches qui peut être très intéressante. Il y a plusieurs passages dans le livre de Gérald Bronner qui sont très sympathiques justement sur ça, sur l'évolution et cette précession, en fait, des fictions sur les croyances. Il y a un point sur lequel je voulais revenir rapidement, mais très vite, c'est que si on dit trop vite ce genre d'idées, évidemment, ça peut donner l'impression qu'on ouvre la porte à une sorte de relativisme intégral, de dire en fait, si ma perception du réel, c'est un peu une co-fiction, une construction, en réalité, du coup...
Tout est fiction, et la plus forte de fiction va l'emporter, il y a une guerre des fictions, oui, finalement, il n'y a pas de vérité.
Il y a deux choses qui me semblent extrêmement importantes à dire, c'est que soit on décide de fermer les yeux là-dessus et qu'on reste dans une sorte de statut naïf, de dire en fait, ce à quoi j'accède, c'est la réalité du monde. Quand je vous vois, c'est vous que je vois, etc. On peut en discuter, je pense que ça mène vers beaucoup d'écueils. L'autre, en fait, écueil, c'est celui du relativisme, mais la réponse à ça, d'après moi, et c'est très important, je pense, d'en dire un mot, c'est qu'en réalité, une fois que vous êtes lucide de la nature de vos pensées sur le monde et de l'accès que vous avez à cette réalité, il y a deux choses. La première, c'est qu'une fois que vous en êtes lucide, vous essayez d'adopter un statut plus mature, plus adulte, de vous dire, en fait, j'ai une sorte de jeu d'indices à faire avec ce que j'ai, mais à savoir que ce que j'ai n'est pas directement l'identité de cette réalité extérieure. Et le deuxième, c'est que j'ai une responsabilité parce qu'une fois que je pense ou crois à quelque chose, ce statut
ça a
une
conséquence. La fiction n'est pas coupée du réel, c'est même un moteur du réel.
Exactement, il y a parfois une confusion des réalités. C'est-à-dire que la fiction a une réalité, pas nécessairement dans son contenu, mais dans son existence. Donc on est tenu par ces fictions, et je pense que c'est important de le mentionner. C'est-à-dire que dire ça, ce n'est pas un relativisme intégral.
Là aussi, Lionel Nakache, je vois un lien très fort avec la thèse centrale de Gérald Bronner, c'est-à-dire cette idée d'une anthropologie réaliste que vous partagez l'un et l'autre. Vous venez de dire, au fond, il faut être réaliste, nous travaillons par des fictions, et il y a un danger qui est le relativisme. Au fond, et vous, Gérald Bronner, aussi, quand vous parlez d'anthropologie réaliste, au fond, vous vous en prenez à des penseurs, à des sujets, des citoyens qui seraient dans le déni de ça, finalement, le déni de notre être fictionnel, de notre être pulsionnel, et qui, à cause de ce déni, manqueraient les vrais dangers sur lesquels vous voulez nous alerter, comme Lionel Nakache, il me semble.
Oui, c'est un des récits, en effet, qui risque de nous faire rater, je dirais, ce carrefour de l'apocalypse cognitive, qui est certes inquiétant, mais qui est plein de promesses aussi, hein, pour notre développement.
On va y revenir sur les promesses, j'espère.
oui, volontiers. Mais en effet, on trouve une sorte de, j'appellerais une matrice narrative, une très très ancienne, hein, qui date pas d'aujourd'hui, mais qui ressemble un peu à une forme de rousseauisme un peu naïf et qui aurait tendance à dire que toutes ces traces que nous laissons dans ce monde numérique, elles sont artefactuelles. En réalité, elles n'existent pas vraiment. Toutes ces obsessions, elles sont créées par le contexte, et on retrouve ça. Tout le long de l'histoire, par exemple, cet intérêt que nous avons pour la sexualité en tant que mammifère, qui est bien normal en réalité, elle a été lue par des récits religieux comme étant extérieure à nous, comme étant une tentation, par exemple, du diable. Et on retrouve d'une façon très différente l'idée selon laquelle le fait que nous consommions quand même les vidéos les plus consommées dans le monde et partout, y compris dans les pays religieux, ce sont les vidéos pornographiques. Voilà, c'est un fait. Le réel est un os, comme disait Hegel. Donc c'est comme ça.
Un caillou dans la chaussure, effectivement, le réel.
Vous avez des textes, hein, j'en donne des exemples, on va pas rentrer trop dans les détails, mais j'en donne des exemples dans le livre, eh bien des thèses aujourd'hui contemporaines, là je parle pas de religion, de religion monothéiste ancestrale, qui vous disent que dans le fond, ce sont des créations artificielles du marché, du néolibéralisme, du capitalisme, etc. Donc en fait, les figures du mal, elles se métamorphosent, mais la matrice reste toujours la même, c'est une matrice qui vise à nous empêcher de nous regarder en face, n'est-ce pas, c'est-à-dire avec, de voir cette anthropologie réaliste, Et donc ça, c'est ce que j'appelle la matrice de l'homme dénaturé. Voilà. Mais alors, l'homme serait en fait dévoyé par son environnement.
Mais justement, j'avais une question pour vous, Gérald Bronner, à ce sujet, et qu'on prolongera sûrement avec Lionel Nakache. C'est que, au fond, ce que vous venez de dire, c'est l'idée, faut pas se voiler la face. Il n'y a pas un homme naturel pur qui serait, et une société qui vient le déformer. C'est dans notre nature biologique qu'est déjà le danger. C'est ça que vous appelez l'un et l'autre le réalisme, la lucidité. Mais l'une des questions qu'on pourrait vous poser, Gérald Bronner, c'est vous qui êtes sociologue aussi, c'est quand même dans ces récits, dans ces dangers, bien sûr, il y a des pulsions de l'espèce, il y a des forces du cerveau, des fonctionnements du cerveau, il y a aussi ce raccord avec les techniques modernes. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une histoire? Est-ce que nos cerveaux ne sont pas aussi historiques, sociaux? Et malgré tout, les gens qui sont dans le déni que vous dénoncez, est-ce qu'ils n'ont pas raison aussi de dire que les dangers sont aussi dans certaines histoires construites socialement qui viennent dominer quand même nos pulsions individuelles, nos pulsions vitales, Gérald Bronner?
Ah mais j'en suis persuadé, ce serait très caricatural de ma part que de croire que ces objets mentaux, ces croyances collectives, elles sont pas en même temps évidemment engrammées profondément dans le temps long de l'histoire.
Historique, c'est évident. Ouais, c'est ça.
Ce que j'essaye de rechercher, de mettre à nu, en quelque sorte, ce sont un certain nombre d'invariants. Mais vous aurez remarqué que je propose sans cesse toujours de définir la sociologie comme une science qui s'intéresse à l'hybridation entre les invariants mentaux et les variables sociales et historiques. Hein ? Je pense qu'il faut tenir les deux si on veut faire de la sociologie. Donc il est évident que je ne néglige pas du tout la portée historique de tout ce qu'on est en train d'évoquer ici.
Oui, puis il y a un autre point sur lequel on reviendra ensuite, c'est que vous critiquez ceux qui sont dans le déni, mais aussi ceux qui manipulent nos pulsions. Vous critiquez ceux qui sont dans le déni de nos pulsions les plus dangereuses, les plus...
Exactement.
Mais aussi, et peut-être même encore plus, dans certains usages, par exemple des fake news ou de manipulation de nos pulsions, ceux surtout qui les relâchent aujourd'hui. Et donc ce réalisme...
Oui, tout à fait. Ceux qui cherchent à donner une légitimité politique à ces obsessions, sous la forme de ce qu'on appelle les néopopulismes, par exemple. Et effectivement, je cherche à tenir une position rationnelle entre les deux, une analyse qui pourrait éventuellement être le ferment d'une narration politique même, rationnelle.
C'est ce qui m'a frappé que vous aviez ces deux adversaires, ceux du déni et ceux de la manipulation.
Oui, c'est pas toujours facile, croyez-moi.
Il faut définir cette voie médiane, en tout cas la comprendre et pour vous suivre. Et Lionel Nakache, j'ai l'impression que vous partagez cette idée aussi que finalement, il faut être lucide sur les fonctionnements de notre cerveau, justement pour en maîtriser les dangers et sans déni de du social, de l'histoire, de la culture, oui, Lionel Nakache, chez vous non plus.
Absolument, et avec peut-être, alors j'ai peut-être tort, je ne sais pas, mais je suis souvent, alors évidemment qu'il peut y avoir des formes de manipulation intentionnelle, on peut le voir sur des manipulations de vote, etc., ça existe. Mais à mon sens, les éléments les plus préoccupants, sont pas tellement cette vision un peu, on va dire, du complot, pour le coup, au sens réel, de dire qu'il y a une manipulation explicite, volontaire, etc.
Les complotistes sont eux-mêmes des comploteurs.
Hein. Exactement, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'en fait, tout ce qui n'est pas nécessairement volontaire, mais qui procède dans cette architecture complexe, d'un fonctionnement qui va être délétère pour les individus, pour le groupe, mais qui n'est pas nécessairement orchestré par un grand méchant dans un bureau. C'est-à-dire qu'en fait, la marche propre de ces réseaux complexes peut, et c'est là peut-être l'analogie que je faisais avec l'épilepsie,
dans l'homme raisonnable, je le rappelle, Lionel Nakache, vous décrivez effectivement une implosion interne du réseau, sans manipulation, mais analogue à une épilepsie dans un cerveau individuel.
Oui, alors je sais pas si j'ai deux minutes pour en parler, pas pour faire le pitch du livre, mais pour communiquer l'idée.
Pitch, c'est très bien.
Mais l'idée partait du principe, le livre est né comme ça, c'était du principe suivant, c'est qu'on n'a jamais été dans une société où il était si facile de circuler en termes physiques ou virtuels, d'informations ou physiques, de se rendre d'un point A du globe à un point B. Donc des voyages, des déplacements qui sont rapides, qui
des
sont pas chers.
Connexions dans tous les sens.
Qu'on peut facilement... Alors évidemment, l'année du Covid, c'est un peu difficile de dire ça, mais...
On va y revenir.
Voilà, mais d'ailleurs, c'est pas sans intérêt. Et l'idée de point de départ de ce livre, c'est de dire qu'on n'a jamais pu bouger d'un point A à un point B de manière aussi vite, aussi rapide, aussi sûre, aussi peu chère, aussi efficace. Et pour autant, de manière paradoxale, une fois qu'on s'est rendu d'un point A à un point B, de plus en plus souvent, pas à chaque fois, mais on n'a pas vraiment l'impression d'avoir changé. L'exemple étant le centre commercial américain, c'est l'archétype de ça. Et de ce point de départ, donc j'appelais ça une sorte de voyage immobile, et ces voyages immobiles sont caractérisés par le fait que vous pensez avoir bougé, mais vous n'avez pas bougé, parce que là où vous arrivez, c'est la même structure que là où vous étiez. Et pour aller très vite...
C'est vraiment le court-circuit, là.
Voilà, et dans le cerveau, ça existe. C'est-à-dire que dans un cerveau, lorsqu'il y a une hypercommunication entre des régions du cerveau, Eh bien, en fait, toute cette conversation complexe qui est la métaphore de la conscience, on pourrait dire, conversation cérébrale complexe, cohérente, à longue distance, etc., elle se transforme en une sorte d'hypercommunication d'un message qui est extrêmement appauvri, dédifférencié, c'est-à-dire que tout le monde fait la même chose, et ça s'appelle une crise d'épilepsie. D'où la naissance d'un peu de l'idée d'un concept d'épilepsie sociétale. Et dans l'épilepsie sociétale, je reviens à l'idée que je voulais vous dire, c'est que le point intéressant, c'est que c'est pas nécessairement un grand méchant quelque part qui le fait. C'est que l'architecture complexe nous expose à ça. Et c'est ça, pour moi, les dangers les plus préoccupants. Plus que un ou deux marionnettistes, si vous voulez.
Oui, peut-être que les marionnettistes savent aussi se servir de ces implosions internes du système.
Mais à mon sens, ce ne sont pas les plus préoccupants.
On va voir ces dangers, quels sont les pires, et surtout comment vous nous proposez l'un et l'autre d'y répondre. Mais d'abord, Gérald Bronner nous propose aussi une énigme musicale.
Sitting in the big black oven, what a clever place to hide. With my eyes wide open, my face is a flaming pie. Bare naked in the kitchen, when everyone's sleeping tight. The clock goes to seven, I dance but I don't know why. I'm standing in the schoolyard, waiting for my teacher to come. She looks gently downward and picks me up in the sun.
France Culture,
à présent,
Frédéric Worms.
I'm chewing cloud flakes, I'm falling apart.
À présent, ce soir, ce que les réseaux font à nos cerveaux avec Lionel Nakache et Gérald Bronner. Et nous parlons maintenant, dans cette dernière séquence de notre discussion, des dangers, aussi des réponses, de ces effets des réseaux sur nos cerveaux que l'un et l'autre, le sociologue d'un côté, le neurologue de l'autre, rencontrent. Ils se rencontrent au milieu du tunnel, on pourrait dire. Alors, Gérald Bronner, avant que vous nous expliquiez comment on peut espérer qu'une voie médiane de la rationalité revienne entre les sources de nos crédulités et de nos dangers, au fond, ce morceau de musique, il n'a peut-être aucun rapport, mais c'est vous qui l'avez proposé. Peut-être qu'il y a un lien, malgré tout, avec ce dont nous discutons avec Lionel.
Oui, il y a un petit lien. C'est un peu un hommage à Lionel Nakache, parce que bon, Sid Matters a un univers musical fondé, c'est un peu sur la nostalgie, la mémoire et l'imagination. Tout se mélange un peu. Vous avez écouté un peu les paroles. Et ben, en lisant le livre de Lionel Nakache, j'ai appris qu'en fait les chemins neuronaux de l'imagination et de la perception étaient extrêmement semblables. Et alors j'espère ne pas dire de bêtises, hein, il me contrôlera. Et je trouvais que ces traces, cette porosité entre imagination et perception décrivait assez bien l'univers musical de cet auteur, Sid Matters.
Alors Lionel Nakache va vous répondre, mais avant, sur ce que vous venez de dire, donc ce mélange entre imagination et perception qui est très très présent dans l'art, évidemment. Lionel Nakache lui-même disait il y a un instant qu'il peut y avoir un risque, une erreur dessus, c'est-à-dire qu'il peut nous conduire au relativisme, au fond, en disant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Vous-même, vous affrontez les risques de nos pulsions primaires dans les réseaux contemporains, mais quand même, vous essayez de construire cette question de la rationalité. Comment est-ce que, pour répondre aussi à Lionel Nakache, avant qu'il vous réponde lui-même, comment est-ce que cette rationalité, vous pouvez y accéder depuis votre point de départ assez inquiet et critique aussi, Gérald Bronner?
Alors, dans la tradition sociologique, le terme rationalité est à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a la rationalité objective, celle du rationalisme qui essaye de combattre les fake news, etc. Mais la rationalité en sociologie, en tout cas dans la sociologie que je pratique, c'est surtout un outil interprétatif. C'est-à-dire que on fonctionne avec l'idée que les individus, même quand ils croient à des choses folles, eh bien,
ils ont des raisons de croire.
Voilà. Mais comme je le dis parfois, essayer de chercher les raisons des individus, ce n'est pas forcément leur donner raison. Et ça, c'est pour faire écho, en effet, à la position qu'il faut tenir et que rappelait Lionel Nakache entre un objectivisme naïf, qui croit que la connaissance est un accès direct au réel dans son essence, et un relativisme qui considère qu'en effet, puisque la connaissance est une forme de construction de l'esprit, alors toute connaissance se vaudrait, tout propos sur le réel se vaudrait. Je pense qu'entre les deux, il y a la position du rationalisme qui est, à mon avis, la plus solide.
Donc il y a quand même un fondement pour certaines raisons, de plus que pour d'autres, et il y a quand même une science qui peut nous orienter, mais le risque, c'est qu'elle est prise aujourd'hui dans des discours qui viennent la concurrencer. Vous dites, et je voudrais aussi la réaction de Lionel Lacache à cela, vous dites dans votre livre, Gérald Bronner, qu'aujourd'hui, sur les réseaux, un professeur au Collège de France et un blogueur ont la même audience, et même plutôt, c'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est la personne qui a le moins de raisons, de justifier ses raisons, qui va avoir plus d'audience. Et donc là, il y a ce risque que toutes les raisons, quand même, vous-même, vous êtes savant, donc vous arrivez à discriminer Lionel Nakache et Gérald Bronner, mais comment on fait Lionel Nakache pour répondre au risque, non pas que défend Gérald Bronner, mais qu'il dénonce, qu'il décrit sur l'usage des raisons dans cette plateforme mondiale.
Oui, c'est, j'ai évidemment pas la réponse, mais je pense qu'elle passe. Et au passage, merci pour la découverte de cet univers de Sid Matas que je vais découvrir. Et c'est vrai que les liens entre imagination et perception, c'est aussi un des messages clés, je pense, très important, parce que souvent, dans une vision un peu romantique, on met souvent un peu le... Vraiment, on valorise l'imaginaire, alors ouais. Qu'en fait, lorsqu'on étudie les récits imaginaires de n'importe quelle époque, ils nous renseignent surtout sur ce que les gens percevaient à cette époque, comme les récits de rêve, c'est-à-dire que vous allez imaginer et rêver à partir des catégories que vous êtes capable de penser, et sont surtout celles qui alimentent votre perception, par exemple. Donc, il y a ici l'identité, c'est vrai, des réseaux cérébraux de la perception de l'imagination, un point, je pense,
vous
très
fort. Vous voulez que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que l'imagination peut venir perturber la pensée,
bien sûr,
mais en même temps, c'est là qu'elle se nourrit.
Qu'elle est nourrie par ça, exactement. Et que cette proximité, là aussi, elle nous rend encore plus responsables du choix, on pourrait appeler ça le choix de nos fictions. Vous voyez, ce matin, en consultation, il y a l'épouse le mari d'une patiente qui m'a dit, il s'avère qu'il lit souvent mes livres. Bon, il était très sympathique et il m'a dit, mais vous n'avez pas parlé du mythe de la caverne, l'allégorie de la caverne dans le cinéma intérieur. Donc, on a un peu discuté et je lui disais qu'en fait, pour moi, sortir de la caverne n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, la seule sortie possible de la caverne, c'est d'être lucide de la manière de laquelle on fonctionne. Mmh. Je veux dire que, c'est pour répondre à votre question que je dis ça. C'est-à-dire qu'en fait, échapper à la nature fictionnalisante de notre pensée, je pense que c'est une illusion. Nous fonctionnons comme ça. Mmh. Mais par contre, en devenir lucide, nous amène à la fois à prendre un certain recul avec nous-mêmes, et peut-être le choix qu'on peut avoir par la culture et l'éducation, c'est de faire le choix de nos fictions. Et là, il y a plein de facteurs sociaux, de facteurs interculturels, et notamment un mot qu'on n'a pas prononcé encore, qui me semble essentiel, c'est le mot de confiance, de confiance en les gens. Et que peut-être un des symptômes de ces crises dont vous parlez, et aussi dans le rapport au savoir, c'est la confiance. C'est-à-dire que la circulation, l'échange des connaissances, elle repose beaucoup sur la confiance. La plupart du temps, on accepte des choses parce qu'on peut appeler, je crois, François Recanati appelait ça le savoir référentiel, je me souviens avoir entendu il y a assez longtemps, le fait que vous n'êtes pas nécessairement au fait dans l'ensemble des connaissances qui sous-tendent un phénomène ou une explication, mais vous la tenez pour vrai. Et donc ça repose sur des mécanismes aussi sociaux qui sont...
Des institutions, des règles...
Oui, et là, on revient sur cette histoire de bottom-up et de top-down. Ça veut dire, ni dans un truc totalement hiérarchique, vertical, vous n'avez pas le mot à dire, et à la limite, on pourrait dire que les milliards de tweets qu'on n'a pas vus parce qu'il n'y avait pas Twitter, mais de gens qui n'en pensaient pas moins,
avant,
et ceux qu'on peut voir maintenant, d'une certaine manière, le plus intéressant, ce n'est pas nécessairement qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes confronté à quelque chose que vous avez du mal à tenir pour vrai, ou qui suscite votre réaction. Et donc, je pense, le sujet principal, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on résout l'énigme de cette subjectivité.
Alors, c'est très impressionnant, le rapport à les métaphores de la caverne chez Platon. Je l'explicite en deux mots aussi, Lionel Lacache. C'est l'idée que Platon décrit les hommes comme s'ils étaient prisonniers dans une caverne où on leur projette une fausse image du réel sur une toile de fond, sur un mur, une paroi du fond. Et le philosophe en sort et il voit les marionnettistes et lui, il accède à la vérité. Et vous dites, il n'y a plus de philosophie hors de la caverne. Il faut se donner les critères avec le cerveau qu'on a, il faut trouver des critères du réel et de la vérité. Gérald Bronner, ça doit vous sembler, vous travaillez sur le même risque, vous êtes aussi dans la caverne, vous prétendez pas, vous renoncez à l'idée du savant qui, de l'extérieur, va nous permettre de nous délivrer des illusions. Nous sommes pris au piège de cette caverne mondiale désormais.
Oui, absolument, non, moi effectivement je ne suis pas dans la rêverie platonicienne.
Ah, il y a quand même, derrière il y a les mathématiques, il y a la vérité, il y a
des très belles choses.
Ça se réfute pas si simplement, mais enfin
dans des espaces, mais en effet, disons que je crois qu'on ne peut pas sortir de cette caverne. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est de se doter d'outils
pour nous mettre en garde contre nos propres intuitions. Si dans un certain nombre de cas, finalement, la crédulité, voilà, c'est ce une baisse de la vigilance terme. Rationnelle. C'est ce qu'on appelle la crédulité. C'est pourquoi elle se diffuse si bien sur ce marché ultra concurrentiel, puisque, comme le disait Lionel Lacache, nous cherchons du sens avant la vérité c'est une satisfaction, mais il y a des propositions intellectuelles qui sont encore plus satisfaisantes, c'est-à-dire celles qui vont très vite, qui vont dans le sens de nos intuitions et qui nous demandent un minimum d'effort. En fait, notre cerveau souvent se satisfait non pas des propositions les plus optimales, mais justement de celles qui ont le meilleur rapport qualité-prix en quelque sorte, quoi. Et ce qu'on appelle la pensée méthodique, c'est un moment, en tout cas, et souvent collectif, souvent un travail collectif, c'est pour ça que la science est collective, c'est un moment que l'on accepte de prendre, un pari qu'on accepte de prendre, d'un investissement intellectuel qui sera peut-être perdu, mais pour prévenir certaines de nos intuitions, c'est-à-dire notre tendance à accepter des propositions qui sont suboptimales, en quelque sorte.
Alors justement, Gérald Bronner et Lionel Lacache, je voudrais vous poser à vous deux une question, peut-être pas tout de suite pour terminer, mais malgré tout, le temps passe. On est dans un moment de pandémie mondiale. Est-ce que pour vous, Gérald Bronner, d'après ce que vous venez de dire, est-ce que finalement la pandémie, qui d'un côté aggrave comme tout danger vital nos impulsions, plus même que nos intuitions, est-ce qu'elle ne va pas nous obliger à passer par le moment méthodique, c'est-à-dire par la science, la médecine, c'est-à-dire nos impulsions, elles ne vont pas nous guérir. Donc on a besoin de l'expérience, on a besoin de la méthode, on a besoin de la science. Est-ce que pour vous, la pandémie va aggraver votre diagnostic sur le marché cognitif des croyances les plus farouches, les plus déréglées? Ou bien est-ce que la pandémie va rétablir une sorte de règle minimale, parce que finalement, y a la pierre de touche du réel, c'est quand même la vie, la mort, et finalement la médecine que pratique Lionel Lacache?
En tout cas, pour l'instant, je constate qu'elle a plutôt aggravé la situation qu'elle ne l'a améliorée.
Ouais.
D'abord parce qu'une situation de pandémie, c'est aussi une situation d'incertitude.
Ouais.
Et puis surtout au départ,
ça, on le voit
avec
bien,
beaucoup de questions qui se posaient. Et comme nous sommes des machines à chercher du sens, et bien nous avons cherché du sens. Et quand on cherche, on trouve toujours, surtout sur un marché où il y a pléthore d'informations. Ça augmente la probabilité de trouver une proposition intellectuelle, quelle qu'elle soit. Puis surtout une... Là, on a traversé, notamment avec les confinements, presque une expérience à taille réelle de libération de temps de cerveau disponible.
Ah oui.
Et qu'est-ce qu'on en a fait? Ça c'est très documenté. Eh bien, on a consulté encore plus ce monde numérique. Par exemple, 121% d'augmentation des consultations des réseaux sociaux au mois de mars l'année dernière pendant le premier confinement, et 155% au mois d'avril. Et ce qu'on a vu immédiatement le premier jour même du confinement, c'est une augmentation de la recherche sur Google du terme complot. Donc malheureusement, on aurait pu croire que le mur du réel s'approchant, finalement, par un instinct de conservation, en quelque sorte, nous irions vers le plus de rationalité. Et en même temps, pour contrebalancer ce que je viens de dire, on voit aussi qu'en France, on en a beaucoup parlé, une grande méfiance vaccinale. C'est même le pays numéro un dans le monde, d'après toutes les enquêtes année après année, de ce point de vue. Mais en même temps, au fur et à mesure que se déploie la vaccination, on voit que la confiance revient progressivement, comme un passager clandestin finalement. On regarde ce que les autres vont faire, ceux qui prennent le risque, et puis on se dit finalement, bon, peut-être, pourquoi pas moi. Donc espérons en effet que le curseur reviendra vers plus de rationalité.
La confiance et la raison comme une médiation, là aussi, entre deux peurs, la peur du vaccin, mais aussi la peur de ne pas en avoir, la peur de... Ouais, les peurs absolument. Un peu contradictoires, et finalement une construction... Ouais. Voilà, mais c'est vrai que votre thèse centrale, Gérald Bronner, sur le temps de cerveau que les machines... paradoxalement libère et qui est très dangereuse. C'est vrai qu'il y a là un danger. Et vous-même, Lionel Lacache, la pandémie, vous qui êtes médecin, qui voyez ses effets sur les hôpitaux, vous voyez aussi ses effets sur les cerveaux, Lionel Lacache.
Oui, alors il y a plusieurs points. Très rapidement, comme médecin, je suis ni réanimateur, ni pneumologue, ni infectiologue, je suis neurologue. D'ailleurs, au début, les neurologues ont eu une sorte, c'est pas très, 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 très grave d'en parler, mais une sorte de blues. Au début, on pensait qu'on allait servir à rien. Et il s'avère, et on s'en réjouit pas, mais que d'abord, on a aidé à la marge des choses, à l'hôpital, partout, comme tout le monde.
Vous avez libéré des lits aussi dans certains services.
Oui, et puis surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de formes neurologiques, en réalité, du Covid, aiguë ou chronique, etc. Donc, on a été amené à explorer beaucoup de patients, et c'est toujours le cas. Et il y a différentes phases. On découvre au fur et à mesure des phases tardives, etc. Donc, il y a un aspect médical, et qui, moi, en fait, j'étais plutôt vraiment dans le, on pourrait dire dans le, pas sidéré au contraire, mais agissant, mais sans prendre vraiment de recul particulier. Mmh. Par contre, sur le point général que vous interrogiez, Frédéric Worms, deux choses, c'est qu'il y a, je pense que les gens, la population générale, a peut-être mieux compris quelle est la marge de la science, c'est-à-dire qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui a besoin d'un temps long, qui faire de la science, c'est aussi utiliser un doute rationnel, qui est nourri de certitudes, d'informations vérifiées, mais qui les vérifie, qui les remet en cause. Mmh. Il y a un concept de remise en cause permanente, et ça a peut-être enrichi l'expérience. Et là, d'après moi, d'ailleurs, c'est même pas un rapport d'éducation. Vous pouvez avoir des gens extrêmement éduqués, qui ont des diplômes de troisième cycle, mais qui savent pas ce que c'est que la recherche. Mmh. Et donc, peut-être que les gens, par une expérience malheureuse de choc avec cette société, cette situation pandémique terrible, ont peut-être quand même mieux saisi, ou vont peut-être mieux comprendre avec un peu plus de sens. Et le troisième point, qui pour moi est le plus important, ce livre, Le cinéma intérieur, je l'avais écrit avant la pandémie, je l'ai écrit à l'été 2019, mais effectivement, pour moi...
Ça nous semble très loin maintenant,
oui,
Lionel Nakache.
Mais en ayant dit ces précautions sur l'aspect médical et le rapport à la science, il y a autre chose, c'est qu'il apparaît un peu, à mes yeux, comme une forme d'expérience grandeur mondiale, où en fait, si vous imaginez effectivement l'ensemble de l'humanité comme autant de milliards de cinémas intérieurs qui tournent chacun dans son esprit, avec son histoire, sa vie, son imaginaire, sa perception, sa conscience, etc. Mm-hmm. Et là, donc ça veut dire qu'en permanence, vous avez toutes ces histoires qui tournent, qui sont toutes différentes, mais qui ne sont pas motivées par les mêmes intérêts. Et là, on est confronté à une situation où tout le monde a dû penser à la même chose. Mmh. C'est-à-dire que tout le monde avait les mêmes informations sous les yeux. Mmh. Et si on reprend toute l'historique des masses, la chloroquine, tout ce que vous voulez, tout le monde avait la même chose. Et
selon ces canaux d'information.
Oui, mais justement, ce qui était intéressant, c'est que quand même, soumis à cette information commune, on a pu voir se déployer des milliards de diversités de cinémas intérieurs différents qui étaient en concurrence les uns avec les autres. Et d'une certaine manière, je ne sais pas ce que ça aura comme terme d'aggravation ou pas, mais en tout cas, ça a eu ça a un rôle révélateur de cette dimension du cinéma intérieur qui participe, elle n'explique pas tout, mais qui participe à l'explication d'une partie de ce phénomène complexe qui est comment expliquer que face aux mêmes données, on puisse réagir d'une manière tellement différente en fait.
Alors ce qui est très clair, c'est qu'effectivement il faut travailler à la fois sur le cerveau et sur les réseaux, mais Gérald Bronner, il nous reste une minute à peine pour réagir à ce que disait Lionel Nakache. Quand même, entre ces cerveaux qui tous inventent leur propre film et le grand film mondial imposé par la pandémie, qui est quand même le retour d'un objet commun, il y a aussi, malgré tout, les relais, les fabricateurs de croyances. Il y a quand même tous ces intermédiaires sociaux et politiques. Gérald Bronner, malheureusement, trop rapidement, mais on a envie, comme vous le disiez l'un et l'autre, de continuer très longtemps.
Oui, j'aurais adoré que la conversation se poursuive, mais
il reste 50 secondes.
Jour, voilà. Donc, il y a en effet des opérateurs plus puissants que d'autres, ce qu'on appelle les dark patterns, des concepteurs qui jouent de ces aspects négatifs de notre cerveau et qui les instrumentalisent. Mais je crois aussi, comme Lionel Nakache, que le gros des phénomènes, c'est un phénomène un peu acéphale, sans grand méchant qui tire véritablement les ficelles. Et c'est ça qui rend la situation particulièrement complexe.
Lionel Nakache, je veux ajouter encore un mot, il lui reste 30 secondes.
Il faut
30 secondes.
C'est vrai, il lui reste vous nous réinviter, Frédéric Worms. Mais juste un mot, c'est que par exemple, le mot même de fake news, on pourrait dire false news, incorrect news. Fake news, ça suggère déjà que quelqu'un l'a fait fake, qu'il y a une sorte d'intentionnalité.
Ça arrive.
Évidemment que ça existe, mais que l'ensemble du phénomène, l'aspect le plus compliqué, je pense que c'est au-delà de cette intentionnalité. C'est comment, en exactement, soi-même, ça procède comme ça dans ces réseaux complexes.
Merci de votre accord sur ces questions qu'il faut encore rediscuter et qui sont si cruciales à présent. À présent, ce soir, nous avons exploré ce que les réseaux font à nos cerveaux. Nous l'avons fait avec Gérald Bronner et Lionel Nakache, avec et grâce aussi à Élise Le, Jérémy Kaufmann, Max James, Sandrine Chaperon, Jeanne Delecroix, Frédéric Worms. Je vous retrouverai la semaine prochaine à la même heure et sur la même antenne.